8 heures du matin. Debout! Jonathan ouvrit un œil et émergea avec difficulté. Debout! Répéta Madeleine. Il faut partir! Une lueur laiteuse perçait derrière la vitre. Le jour pointait à peine. Jonathan écrasa un bâillement et quitta le lit difficilement. Madeleine s'était déjà habillée. Après cette courte nuit de sommeil, elle avait repris ses esprits et paraissait plus déterminée que jamais. Alors qu'il empruntait le couloir qui menait à la salle de bain, elle lui lança ses habits. « Tu prendras une douche un autre jour, on n'a pas le temps. » Ils sortirent dans la rue après avoir laissé quelques billets à leur hôtesse. Ce matin, ce n'était plus 10 centimètres, mais au moins le double qui recouvrait la ville. Les flocons continuaient à tomber, ralentissant la circulation. Sur les trottoirs, les gens déblayaient leur entrée. Des employés municipaux salaient la chaussée et, sur la Bowery, deux immenses chasse-neige repoussaient la poudreuse des deux côtés de la route, noyant sous une avalanche les vélos et les voitures mal garées. Ils retrouvèrent la Pontiac et récupérèrent leur téléphone avant de reprendre leur marche vers Peels, leur nouveau quartier général. À cause de la neige et de l'heure matinale, le café était clairsemé. Ils s'installèrent à la même table que la veille et commandèrent café, yaourt et céréales. Comme il n'y avait pas de poste de télé, Madeleine sortit l'ordinateur et le connecta au Wi-Fi. « Quelle est la chaîne d'info locale la plus sérieuse ici ?»« Essaye NY One News. » Madeleine se rendit sur leur site. La page d'accueil s'ouvrait sur une vidéo, NY One Minute, qui résumait l'actualité du jour en 60 secondes. Si les 3/4 du flash étaient consacrés aux chutes de neige inattendues qui menaçaient de paralyser New York, la dernière partie évoquait « Le mystérieux assassinat, cette nuit, d'une marshal des États-Unis, Blythe Blake, tué d'une balle dans la tête. Son corps a été retrouvé dans l'Hudson. Cette ancienne militaire était en charge de la protection d'un citoyen devant apporter un témoignage capital, lundi prochain, lors du procès de la baronne de la drogue, Jezebel Cortez. Ce témoin essentiel est à présent sous la protection du FBI. » Madeleine respira. Impossible de savoir si la police avait établi la culpabilité de Blythe, mais au moins, Danny était hors de danger. Cette satisfaction fut de courte durée. Il fallait retrouver l'adolescente, et il n'avait pas l'ombre d'une piste. « Blythe avait sans doute un complice », observa-t-elle. Jonathan remplit de café la tasse de la jeune femme avant de se servir le sien. « Il faut reprendre l'enquête au début. Il est évident que dans les heures qui ont suivi l'enlèvement d'Alice, Blythe s'est arrangé pour éliminer les preuves et saboter les investigations. Tu penses à quoi ? Il faudrait essayer de localiser le portable d'Alice. On n'a pas le matériel, c'est un travail de flic. » Jonathan secoua la tête. Plus aujourd'hui. Avec la recrudescence des vols de portables, beaucoup d'opérateurs conseillent à leurs clients d'activer la fonction de localisation à distance. Si le smartphone d'Alice était récent, il bénéficiait sûrement de cette option. Madeleine était dubitative. On ne connaît même pas son numéro. Ça ne fonctionne pas avec le numéro, mais avec l'adresse mail. Jonathan tourna vers lui l'écran de l'ordinateur pour se connecter sur le site « Localiser mon smartphone » d'une célèbre marque informatique. Pour parvenir à repérer l'appareil, il fallait en effet fournir l'adresse de courrier électronique ainsi que le mot de passe associé. « On n'a ni l'un ni l'autre, comme ça le problème est réglé », dit Madeleine maussade en le regardant pianoter. Cette fois, Jonathan haussa le ton. « Je pourrais savoir pourquoi chaque fois que j'ai une idée, tu la trouves mauvaise ?»« Parce qu'on va perdre du temps pour rien. Je te signale que c'est quand même grâce à moi qu'on a pu confondre Blythe. Mais c'est à cause de toi que j'ai été obligé de la tuer », lui reprocha-t-elle. Voilà, c'était ça. La culpabilité qui rongeait Madeleine venait d'opérer un retour en force. Jonathan choisit d'essayer de la raisonner. C'était quoi déjà ton expression ? Le monde compte un salaud de moins. Écoute, quoi qu'il ait pu arriver, Blythe ne nous aurait de toute façon jamais dit où elle retenait Alice prisonnière.
Si ça peut alléger ta conscience...
Ce qui allégerait ma conscience, c'est que tu m'aides à retrouver Alice.
Elle le pointa du doigt et s'apprêtait à lui balancer une nouvelle répartie lorsqu'elle réalisa qu'il n'avait pas tort.
Bordel, on se dispute comme un vieux couple, se désola-t-elle.
Elle se rapprocha de l'ordinateur.
« Veuillez saisir votre identifiant. »«
Bon, Sherlock, tu as une idée ?»«
On peut essayer un compte en Hotmail ou en Gmail, » proposa Jonathan. « Ou plutôt, pourquoi pas le compte de son école d'art ?»
Jugeant l'idée séduisante, Madeline ouvrit une nouvelle fenêtre pour se connecter au site de la Juilliard School. Apparemment, les professeurs, le personnel et les élèves bénéficiaient d'un compte de courrier électronique sous la forme basique. prénom.nom@juilliard.edu. Madeline entra donc consciencieusement alice.kowalski@juilliard.edu. Veuillez à présent saisir votre mot de passe.
Là, je cale, avoua Jonathan.
Attends. Et si elle avait conservé l'ancien?
Celui qu'elle utilisait lorsqu'elle avait 14 ans?
Les gens font ça souvent, non? Moi, en tout cas, j'ai le même depuis des lustres.
C'est quoi?
Mind your business.
Allez, dis-moi.
Pas question.
S'il te plaît.
Violette 1978, soupira-t-elle.
J'ai plus qu'à en changer maintenant.
1978, c'est ton année de naissance?
Oui, pourquoi? Tu me donnais quel âge? Plus ou moins?
Il lui répondit d'un sourire, heureux de leur complicité retrouvée.
C'était quoi le code d'Alice déjà? Heathcliff, le personnage principal des Hauts de Hurlevent.
Jonathan entra le mot de passe.
Croisons les doigts, dit-il en appuyant sur la touche de validation.
L'ordinateur moulina quelques secondes, durant lesquelles ils se regardèrent en silence avec un mélange d'anxiété et d'incrédulité.
Ça ne pouvait pas être si simple.
Depuis le départ, la chance les avait toujours fuis. Rien ne leur avait souri. Les obstacles s'étaient multipliés, chaque fois plus insurmontables, entraînant des conséquences de plus en plus tragiques. Ça ne pouvait pas être ça.
Et pourtant,
ça l'était. Une carte de Manhattan apparut sur l'ordinateur et un point bleu cerné d'un halo clignota sur l'écran. Non seulement le téléphone d'Alice se trouvait à New York, mais encore il était à moins de 3 kilomètres d'ici. Ils se levèrent d'un bond en criant, faisant lever les têtes aux rares clients installés. Il avait suffi de 2 minutes pour que l'espoir revienne. Jonathan se pencha sur la console pour situer le point plus précisément. Un grand bâtiment à l'angle de la 5e avenue et de la 23e rue.
« Tu sais ce que c'est ?» demanda Madeline, presque essoufflée d'excitation. « Le marché italien en face du Flatiron. »
Ils transférèrent les données sur leur téléphone et sortirent sur la Bowery. Il neigeait tellement qu'ils renoncèrent à leur voiture.
« On y va à pied ?» proposa-t-elle.
« Non, avec cette météo, on mettrait une demi-heure. Mieux vaut essayer de prendre un taxi. »
Mais à cause de la tempête, beaucoup de Yellow Cabs étaient restés à leur dépôt et ils durent batailler plus de 5 minutes avant d'attraper une voiture sur Broadway. Une fois installés sur la banquette, ils vérifièrent sur leur écran la position du téléphone d'Alice. Apparemment, le point n'avait pas bougé.
« J'espère que le portable n'a pas été abandonné, » s'inquiéta Jonathan. « C'est quoi ce marché dont tu m'as parlé ?»«
Ça s'appelle Italy, le temple de la gastronomie italienne à Manhattan, une sorte d'immense supermarché de luxe. »
Ils arrivèrent devant le grand magasin. Contre un billet de $20, le taxi accepta de les attendre à condition que leur course n'excède pas 10 minutes. Le marché couvert venait à peine d'ouvrir. Mais en ce jour de réveillon, il était, contrairement aux rues, déjà plein à craquer.
« Suis-moi !»
Les yeux rivés sur leur terminal, ils parcoururent une partie des milliers de mètres carrés de boutiques, de restaurants et d'étalages de produits raffinés. Le mobile d'Alice émettait un signal toutes les 30 secondes, offrant une localisation en temps réel. Son puissant GPS permettait de le situer avec une précision de 10 mètres.
« Par là !»
Jouant des coudes, ils se faufilèrent à travers les pyramides de pain au levain, les boîtes de pasta et de risotto, les meules de parmesan, les jambons de Parme suspendus au plafond, le restaurant végétarien, la pizzeria.
C'est là!
Ils se trouvaient à présent dans le passage qui regroupait les stands de dégustation de crème glacée et de café. Sous tension, ils scrutèrent les dizaines de personnes qui se trouvaient dans l'allée. Il y avait beaucoup de mouvement. La foule était dense, l'endroit bruyant.
Ça ne va pas être facile, soupira Madeline. Tu n'aurais pas une autre idée géniale?
Jonathan baissa les yeux sur son terminal.
Le site permet d'afficher un message sur le mobile ou de le faire sonner sans interruption pendant 2 minutes, même s'il est en mode silencieux. Et c'est ça!
Il activa cette fonction et ils tendirent l'oreille. Mais, au milieu du brouhaha et du grouillement de la foule, impossible de percevoir la moindre sonnerie, même dans un rayon de quelques mètres.
« Tiens-toi prêt à recommencer !» fit Madeline en dégainant son arme.
« Qu'est-ce que tu... »
Sans hésiter, elle tira un coup de feu en l'air.
« Maintenant !»
L'énorme déflagration secoua toutes les personnes présentes. Avant de laisser la place au hurlement, il y eut une demi-seconde de stupeur pendant laquelle régna un silence presque total. Une demi-seconde suffisante pour que se fasse entendre le bip prolongé d'une sonnerie.
« C'est elle !»
désigna Madeline en pointant de son arme une jeune vendeuse du stand d'expresso. C'était une belle fille entre 18 et 20 ans, une métisse avec de longs cheveux noirs défrisés. Le portable dépassait de la poche de son tablier. Madeline se précipita sur elle et la tira de force de son comptoir.
« Suis-nous !»
ordonna-t-elle. Encadrant la gamine en larmes, la portant à demi, Madeline et Jonathan parvinrent à quitter les lieux avant l'intervention du service de sécurité. Dieu merci, le taxi les avait attendus.
« Eh, c'est quoi ce truc ?»
se plaignit le chauffeur en apercevant le Colt.
« Roule ou la prochaine est pour toi !»
hurla Madeline. Puis, se tournant vers la fille toujours en pleurs,
« Tu es qui, toi ?»«
Je m'appelle Maya.
Tu l'as depuis quand, ce téléphone ?»«
Depuis hier matin !»
répondit-elle entre deux sanglots.
« Arrête de pleurnicher, quitte la filée. C'est un cadeau de mon petit ami, Anthony. »«
Un cadeau ?»
« Un truc qu'il a piqué à son boulot, »
précisa-t-elle.
« Il m'a demandé de ne pas l'éteindre parce qu'il ne possède pas les codes d'accès pour le réactiver. »«
Et c'est quoi son boulot ?»«
Anthony travaille à la fourrière de Brooklyn, sur Columbia Street. »
Une fourrière. C'était un lieu de détention possible. La piste devenait intéressante.
« Il est service aujourd'hui ?»«
Non, il est chez ses parents à Stuyvesant Town. »
Madeline se tourna vers Jonathan, spécialiste de la topographie de la ville.
Ce n'est pas très loin, complètement à l'est, entre la 14e et la 23e rue.
Elle frappa deux coups contre la vitre qui les séparait du chauffeur.
Tu as pigé, Fangio ?
Construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Stuyvesant Town était un complexe tentaculaire d'une centaine de petits immeubles de briques rouges. Bénéficiant de loyers contrôlés, il avait permis à des générations de membres de la classe moyenne, flics, pompiers, instits, infirmières, de continuer à habiter au cœur de Manhattan malgré la flambée des prix de l'immobilier. Guidé par les indications de Maya, le taxi se faufila entre les barres de logement.
« C'est ici, au 9e étage, la deuxième porte à droite en sortant de l'ascenseur.
Monte avec nous,
et toi casse-toi »
ordonna-t-elle au taxi qui fila sans demander son reste. La porte du HLM céda sous le coup de pied de Madeline. L'ancienne flic avait retrouvé non seulement ses anciens réflexes, mais aussi une détermination qui confinait à l'impulsivité. Sa facilité à passer à l'acte inquiétait Jonathan, même s'il savait que c'était la condition sine qua non pour retrouver Alice. L'appartement était vide, à l'exception du fameux Anthony qui s'accordait une grasse matinée. Avant d'avoir pu reprendre ses esprits, il se retrouva dans le plus simple appareil, avec le flingue de Madeline pointé vers ses testicules. Le type était grand et mince avec des abdos en acier et des tatouages de rappeur. Son premier réflexe fut de cacher son pénis, mais Madeline lui imposa de garder les mains en l'air.
« Si tu ne veux pas que j'explose ton Black Mamba, tu vas répondre à mes questions, compris ?»«
Compris ?»«
À qui as-tu volé ce téléphone ?»
Jonathan lui agita le mobile d'Alice sous le nez.
« Je l'ai trouvé. »«
Trouvé où ?»«
Dans une caisse, que j'ai enlevée avec ma remorqueuse avant-hier soir. »«
C'était quoi cette voiture ?»«
Un gros Dodge tout neuf, » expliqua Anthony. « Le téléphone était à l'intérieur, sous l'un des sièges de la banquette arrière. »«
Et ce Dodge, tu l'as enlevé où ?»«
À Coney Island. »«
Sois plus précis, »
réclama Jonathan.
« File-nous un nom de rue. »
« Je sais plus. Près de la plage. À côté de l'ancien train fantôme. Pas très loin du marchand de hot-dog. Je me souviens qu'il y avait des chiens sur le terrain d'en face, qui gueulaient tout le temps. »
Jonathan consulta le plan sur son téléphone.
« Ici ?»
demanda-t-il en montrant un point sur la carte.
« Encore plus proche de la mer. Ici, du côté droit. »
Madeline mémorisa les coordonnées. « On y va !» lança-t-elle en sortant de la chambre.